Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1963 sous le titre original On Revolution, De la Révolution est un essai majeur de théorie politique où Hannah Arendt interroge le sens moderne de la révolution. Son objet ne consiste pas seulement à comparer les révolutions américaines et françaises, mais à distinguer deux ambitions souvent confondues: libérer un peuple de la domination et fonder durablement un espace de liberté publique. Arendt examine les commencements politiques, le rôle de la violence, la question sociale, les déclarations de droit et les formes institutionnelles capables de préserver la participation des citoyens. Elle conteste les récits qui réduisent les révolutions au renversement du pouvoir ou à la résolution de la misère. Sa thèse centrale est que leur promesse la plus rare réside dans la capacité des individus à agir ensemble, à délibérer et à instituer un ordre commun. Le livre associe analyse historique, réflexion philosophique et critique des traditions révolutionnaires dominantes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, libération et liberté publique ne désignent pas le même accomplissement. Arendt pose une distinction qui organise tout le livre, la libération et la suppression de la contrainte, tandis que la liberté est une expérience politique positive. Se délivrer de la tyrannie, de la domination impériale ou du pouvoir arbitraire est une condition nécessaire, mais ne garantit nullement la naissance de la liberté. Celle-ci apparaît lorsque des citoyens peuvent se rencontrer dans un monde commun, prendre la parole, délibérer et commencer ensemble une action. Cette différence explique pourquoi une révolution peut réussir à abattre un ancien régime puis échouer à instituer un ordre libre. Pour Arendt, le problème décisif commence après la chute du pouvoir: comment maintenir la capacité collective de participer aux affaires publiques sans la dissoudre dans une administration, une bureaucratie ou une représentation distante. Cette perspective déplace le jugement historique. La violence, les conquêtes sociales et les changements de souveraineté ne sont pas ignorés, mais ils ne constituent pas le critère ultime. Arendt cherche plutôt les institutions et les pratiques où la liberté devient visible et durable. Son analyse refuse donc de faire de la révolution un simple instrument de réforme sociale. Elle y voit une possibilité de commencement marquée par la pluralité humaine et par la création concertée de règles communes. Deuxièmement, la comparaison entre France et Amérique éclaire deux trajectoires révolutionnaires. La confrontation des révolutions françaises et américaines sert à mettre au jour des choix politiques divergents, non à établir une simple hiérarchie nationale. Arendt estime que la révolution américaine a mieux préservé le problème de la fondation constitutionnelle, créé des institutions limitées, durables et capables de protéger un espace de liberté. Dans son interprétation, les révolutionnaires américains disposaient aussi de pratiques locales de participation et d'une expérience politique préalable qui facilitait cet apprentissage. La Révolution française, en revanche, fut entraînée vers la question de la misère et vers une conception plus absolue de la souveraineté populaire. Arendt ne nie pas la gravité de la pauvreté, mais elle soutient que son irruption au centre de la scène politique transforme les priorités révolutionnaires. La recherche de la liberté publique risque alors de céder devant la nécessité de satisfaire les besoins vitaux, domaine où les solutions politiques sont particulièrement fragiles. Sa lecture des droits est également contrastée. La tradition française tend à présenter les droits de l'homme comme antérieurs au corps politique, alors que le modèle américain est surtout associé à la limitation constitutionnelle du gouvernement. Cette opposition, souvent discutée par les historiens, donne au livre sa force polémique et oblige à distinguer droit, pouvoir constituant et institution effective. Troisièmement, la question sociale révèle la tension entre nécessité matérielle et action politique. Une part controversée de la Révolution concerne la place de la pauvreté et de la nécessité. Arendt appelle nécessité ce qui relève des besoins vitaux, du travail indispensable à la subsistance et de la dépendance matérielle. Elle ne soutient pas que ces réalités seraient indignes de la politique ou qu'une société puisse les négliger. Son argument est plus précis: lorsque la Révolution fait de la misère son principe directeur, elle risque de perdre de vue la fondation de la liberté publique. La compassion pour les souffrances peut se convertir en exigence illimitée de salut collectif, puis légitimer une concentration du pouvoir au nom du peuple. Dans son analyse de la dynamique française, cette substitution aide à comprendre le passage de la promesse révolutionnaire à la violence politique. Le propos demeure difficile car il semble séparer avec une rigidité contestable les enjeux sociaux et les enjeux politiques. Des lecteurs lui reprochent notamment de sous-estimer combien la sécurité matérielle conditionne la participation réelle à la vie publique. Mais cette difficulté fait aussi l'intérêt du livre. Arendt invite à demander si une politique de justice peut éviter de réduire les citoyens à leurs besoins, et si la lutte contre les inégalités peut être articulée à des formes où chacun exerce effectivement son jugement et son pouvoir d'agir avec autrui. Quatrièmement, fondation. constitution et autorité forment le problème central de tout nouveau régime, pour Arendt. Une révolution authentique se mesure à sa faculté de fonder un monde politique plutôt qu'à sa seule capacité de détruire l'ancien. Fonder signifie instituer des règles, distribuer des pouvoirs et établir une autorité qui ne repose ni sur la force brute, ni sur une vérité placée au-dessus des citoyens. Le problème est paradoxal, ceux qui créent une constitution doivent agir sans disposer encore du cadre légal qui rendrait leur action pleinement légitime. Arendt examine ainsi le pouvoir constituant, les promesses mutuelles et la stabilisation de la nouveauté révolutionnaire. Elle valorise particulièrement la tradition américaine de constitution écrite et de gouvernement limité, car elle cherche à rendre durable le commencement sans le confondre avec une souveraineté sans bornes. Toutefois, elle ne présente pas les institutions comme des mécanismes purement techniques. Elles doivent conserver un espace où le pouvoir, compris comme action concertée, peut continuer d'exister. Une constitution qui protège seulement les libertés privées ou qui concentre entièrement la décision dans des organes éloignés manque une part du problème. Le livre oppose donc le pouvoir collectif, né de la parole et de l'association, à la violence qui peut contraindre mais ne crée pas à elle seule de légitimité stable. Cette réflexion reste essentielle pour lire les transitions démocratiques et les débats contemporains sur la refondation institutionnelle. En dernier lieu, les conseils révolutionnaires incarnent le trésor politique perdu selon Arendt dans les derniers développements du livre. Arendt met en lumière une tradition qu'elle juge largement occultée, celle des conseils apparus spontanément durant certains épisodes révolutionnaires. Elle évoque notamment la Commune de Paris et les conseils de la Révolution hongroise de 1956. Ces formes ne valent pas, à ses yeux, parce qu'elles représenteraient une recette institutionnelle complète, mais parce qu'elles manifestent directement la joie et la réalité de la participation politique. Des personnes ordinaires y prennent en charge des affaires communes, choisissent des délégués et expérimentent une responsabilité publique qui excède le simple vote périodique. Arendt constate cependant que ces organes ont souvent été marginalisés, vaincus ou absorbés par les partis et les structures étatiques. Elle y voit la perte d'une trésor révolutionnaire, l'expérience selon laquelle le pouvoir peut naître horizontalement de l'action commune. Sa préférence pour un principe fédératif vise à penser comment des conseils locaux pourraient se relier sans être dissous dans un centre souverain. Cette proposition ne supprime pas les problèmes de compétences, de coordination, de conflits ou de représentation. Elle fournit plutôt un critère exigeant, une démocratie est incomplète si elle ne réserve aucun lieu durable à l'initiative et à la délibération des citoyens. Ainsi, Arendt transforme une étude historique en interrogation sur les formes vivantes de la liberté. En conclusion, De la Révolution convient aux lecteurs de philosophie politique, d'histoire moderne et de théorie démocratique, mais aussi à toute personne qui souhaite dépasser les oppositions usuelles entre révolution sociale, changement de régime et démocratie représentative. Sa lecture demande de la patience. Arendt avance des interprétations tranchées, particulièrement sur la Révolution française, la pauvreté et les droits de l'homme, qui ont suscité des objections solides chez les historiens et les théoriciens du politique. Cette dimension polémique est néanmoins un bénéfice intellectuel majeur. Le livre ne fournit pas un manuel de transformation politique. Il impose des distinctions utiles pour examiner toute crise de régime, la chute donne, pouvoir produit, aile de la liberté. Quelles institutions prolongent la participation ? Et comment éviter que la nécessité ou la violence ne remplace l'action collective. Par rapport au récit historique centré sur les causes économiques, les classes sociales ou les résultats militaires, Arendt se distingue par son attention à l'expérience de la liberté publique et à la fondation institutionnelle. Par rapport au manifeste révolutionnaire, elle refuse aussi de traiter le peuple comme une abstraction unifiée. Son intérêt pour les conseils, le fédéralisme et la pluralité fait de cet essai une contribution singulière à la réflexion sur la démocratie. Il est particulièrement fécond pour discuter les limites de la représentation et les conditions concrètes d'une citoyenneté active. Si vous souhaitez soutenir Hannah Arendt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.